mai un cachet oriental. J'ai réussi totalement cette
histoire. Moi, j'ai fait une diplomatie au Katanga. Je pense qu'en combinant les deux pratiques de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonne semaine à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix qui vous accorde la parole. La loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes et la loi portant reddition des comptes du budget 2014 devraient être débattues au cours de la dernière session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Dans un communiqué de presse du vendredi 10 juillet dernier, l'Observatoire de la dépense publique au dépenses sigle regrette que la proposition de cette loi soit retirée de la liste des matières à traiter à l'ouverture de cette session extraordinaire et estime qu'il faut prioritairement en débattre à la session de septembre prochain afin d'imposer un mécanisme efficace de lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Comment réagissez-vous? Vous pouvez nous rejoindre à l'adresse pa@radiokapi.net ou bien nous appeler au 081 890 63 15 pour votre intervention en direct et vous avez également la possibilité de postez vos commentaires sur notre page Facebook. Notez que toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Jean-Claude Ntiala est à la technique. Julie Pézabongonda et Piero Elamegi sont à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungebo sous la supervision de Léonard Moulamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par Internet. pa@radiokapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Donc encore merci de votre fidélité à Radio Okapi. Notez que la création de la Cour des comptes remonte, selon nos informations, à l'époque coloniale où elle fonctionnait comme une chambre des comptes rattachée à la Cour des comptes de Belgique. Après l'accession du pays à la souveraineté internationale en 1960, les troubles qui s'en sont suivis n'ont pas permis à la Cour des comptes de fonctionner. Alors prévu dans la constitution dite de Loubourg de 1964, la Cour des comptes n'a pas été opérationnelle, mais avec l'insistance des partenaires qui tenait à la voir s'instaurer en République démocratique du Congo, la Cour des comptes, dans sa configuration actuelle, a vu le jour en 1987. Nous avons en ligne notre invité, professeur Grégoire Bakandeja. Professeur, vous êtes avec nous?
Oui, je suis en ligne.
Vous êtes professeur en finances publiques et vous avez eu à élaborer pas mal de rapports sur cette matière. D'entrée de jeu, quelle est l'importance d'abord de la Cour des comptes dans un État?
D'abord, il faut signaler que le contrôle de régularité des procédures financières est indispensable dans un état de droit. Et de plus encore, le contrôle de la gestion de l'efficacité et de l'efficience des politiques publiques joue un rôle très important. C'est pourquoi, vous l'avez dit dans votre mot, depuis la colonisation, il avait été prévu de créer une Cour des comptes, et c'est la Cour des comptes de Belgique qui a joué ce rôle-là, avec cette précision que c'est finalement en 1963 que une loi avait été consacrée à l'organisation d'une Cour des comptes, mais c'est ce que vous avez dit dans la Constitution de 64, mais c'est finalement en 1987, sans oublier qu'elle avait été supprimée pendant deux ans, entre 65 et 67. Et donc, en 1987, il y a eu la publication des ordonnances créant cette Cour des comptes. Toutefois, il faut préciser qu'avant 1987, il y a eu une commission parlementaire qui avait été instituée par une loi du 12 janvier 83 qui a fait office de Cour des comptes, justement pour contrôler l'exécution budgétaire dans le cadre de l'amélioration de la qualité de la gouvernance. Et donc, depuis cette période de 87, le compte exerce les attributions qui sont devenues dans ce texte-là, mais ces attributions sont devenues inadaptées au regard de l'évolution constitutionnelle. Il est donc nécessaire qu'elles puissent être réorganisé en tenant compte de ce que la Constitution a prévu, puisque la Constitution de 2006 a prévu que la Cour des comptes continue à exercer la fonction de contrôle de l'exercice des procédures financières.
Alors, si je comprends bien, professeur, en croire vos propos, c'est que la Cour des comptes, dans sa configuration actuelle, n'assure pas pleinement son rôle constitutionnel, qui est celui donc de contrôler, dans les conditions fixées par la loi, comme l'a dit, la gestion des finances de l'État, des biens publics, ainsi que les comptes des provinces, des entités territoriales décentralisées, ainsi que des organismes publics, selon l'esprit et la lettre de l'article 180 de la Constitution de 2006.
Oui, c'est-à-dire que la Cour fonctionne maintenant sur la base d'une loi de 1987. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons, je crois que j'ai été associé à une mission d'audit des institutions de contrôle de la République, dont la Cour des comptes, parce qu'il y avait l'Inspection des finances, pour rendre cette Cour adaptée à l'évolution de la situation et lui faire jouer un rôle. Alors, il était donc prévu que nous puissions déposer un rapport, et nous avons déposé un rapport qui est concerné à la fois son fonctionnement et ses attributions. Et la question principale à laquelle on s'est débuté, c'est la question de l'indépendance au niveau organisationnel, de l'indépendance de la Cour et puis des attributions qu'elle devrait exercer. Alors cette question-là n'a pas été résolue, puisque la Cour fonctionne maintenant sur la base d'un GPEX, alors que la Constitution précise qu'elle relève de l'Assemblée nationale. La Constitution dit qu'elle relève de l'Assemblée nationale, donc son indépendance est un peu entre guillemets. Il faut donc régler cette question-là d'indépendance pour lui permettre de jouer pleinement son rôle, et ensuite voir les attributions dans le cadre de l'organisation administrative actuelle. Parce que vous voyez, la Cour des comptes contrôle en réalité les finances de l'État. Alors, mais l'État est démembré aujourd'hui. Alors, est-ce qu'elle va contrôler simplement les finances du pouvoir central, ou bien elle va aussi contrôler les finances des provinces et des entités territoriales décentralisées? Donc, il était même question de voir comment elle va fonctionner. Est-ce que ça sera sur le plan, est-ce qu'on va déconcentrer ce service ou bien on va décentraliser? Ces questions-là doivent être discutées par les parlementaires en toute lucidité, et je comprends la prudence de l'Assemblée de ne pas discuter de ce projet ou cette proposition de loi. Je pense que c'est une proposition de loi, de renvoyer ça à plus tard, parce qu'il y a, une nécessité de coordination en matière des finances publiques, parce que contrôler toutes les finances de l'État. L'État, il n'y a pas que le pouvoir central. Il y a les provinces, il y a les entités décentralisées. Or, l'impression qu'on donne maintenant, c'est que la Cour ne va contrôler que la gestion du pouvoir central. Or, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la gestion des provinces, la gestion des entités territoriales décentralisées. Ces questions-là doivent être résolues très largement. Ce n'est pas nécessaire de... Souvent au Congo, on a cette manie de pouvoir résoudre tous les problèmes à partir des textes. Hein. Les textes peuvent être là, mais la pratique souvent contrarie les textes.
Oui,
le renvoi de la... La discussion budgétaire.
Oui, avant que nous accordions la parole aux auditeurs, c'est vrai, vous venez là d'évoquer une des faiblesses qui a été également dégagée lorsque les partenaires avaient effectué un véritable diagnostic sur la question. Il était évoqué également le problème du cadre juridique qui est devenu obsolète, vous l'avez dit. Mais au-delà de cela, il y a aussi d'autres problèmes, notamment les vieillissements des magistrats ayant dépassé presque tous l'âge de la retraite, et également le faible effectif à peine 20 des mêmes magistrats là aujourd'hui.
Oui, monsieur Gier, je vous dis que j'ai fait partie de la commission là, c'était une mission de l'Union européenne, nous étions trois experts, deux étrangers et moi-même, nous avons réglé tous ces problèmes là concernant toutes les institutions de contrôle, y compris l'inspection générale des finances. Le dernier qui a été complet, qu'il y a les magistrats sont insuffisants au niveau de la Cour des comptes et qu'il faut recruter des nouveaux magistrats, c'est la base de notamment des licenciés en droit, licenciés en économie et d'autres sciences connexes, pour avoir des gens capables de comprendre les mécanismes qui sont fort complexes. Fort complexes. Donc, ce travail n'a pas été fait, puisque on continue à avoir les mêmes magistrats. Il n'y a pas que la Cour de compte, il y a aussi l'Inspection générale des finances. On n'a pas procédé à un recrutement effectif. Peut-être qu'on a recruté quelque part, mais ces gens n'ont pas eu la formation nécessaire pour pouvoir avoir la maîtrise, les capacités nécessaires de contrôler la gestion des comptables et des ordonnateurs. Parce que la Cour des comptes, son rôle, c'est de contrôler les comptes des administrations publiques. Et quand on contrôle les comptes, ça veut dire qu'on contrôle à la fois les comptables et les ordonnateurs. Parmi les ordonnateurs, il y a les membres du gouvernement, des services qui reçoivent les suivis de l'État. Et ce sont là des questions qui n'ont pas été résolues. Je pense qu'il y avait un financement qui devait être assuré pour réaliser ces opérations. D'abord les équipements. Je crois que sur le plan équipement, le rapport avait préconisé qu'on puisse
construire un bâtiment
et construire le bâtiment, y mettre des ordinateurs, etc. Mais ces ordinateurs doivent être
utilisés par les gens. Aujourd'hui, il y a un bâtiment, il y a un bâtiment moderne, il y a eu le recrutement sur concours d'une nouvelle génération des magistrats, 51 au total, mais ils sont considérés jusqu'à ces jours des stagiaires. C'est comme si on est loin vraiment de trouver une solution à ces problèmes.
Bon, écoutez, ça c'est une question de volonté, hein, parce qu'on a recruté quand même des gens, il faut maintenant les mettre au travail. Pour mettre les gens au travail, bon, il faut renforcer un peu leur capacité. Il y a des questions aussi liées à la motivation. Il y a des questions sur la motivation, bon, ça n'a pas encore été réglé. Il y a des questions qui sont liées à l'indépendance. Je vous ai dit qu'il y a une question principale, c'est l'indépendance. L'indépendance justifie que, d'abord au niveau de l'organisation, ces magistrats, on dit en principe qu'ils sont inamovibles. Ça veut dire qu'ils prêtent serment, et ils ne peuvent être poursuivis ni jugés par une quelconque structure en dehors de la Cour elle-même.
Mmh.
Alors, donc, il faut régler d'abord cette question-là
de
l'indépendance.
Mmh.
Or, la Cour des comptes, normalement, ne fait pas partie du pouvoir judiciaire. Or, nous avons le pouvoir judiciaire qui est indépendant, mais la Cour des comptes ne fait pas partie du pouvoir judiciaire. Donc, il faut régler aussi toutes ces questions-là avant que cette organisation soit opérationnelle, et je comprends que il faut régler toutes ces questions-là avant d'avoir des textes, parce que vous savez, au Congo, on veut toujours avoir
des textes,
mais finalement, ces textes, parfois,
voilà, ça pose problème.
Ne sont pas appliqués, donc c'est voilà. Des choses qu'il faut lire.
Le professeur, on va écouter les auditeurs qui nous ont rejoints dans ce débat, tout en rappelant à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre, qu'ils peuvent composer les 081-890-7315 pour leur participation en direct. Nous sommes en train de parler de la Cour des comptes qui n'est jusque-là pas opérationnelle dans sa configuration de la Constitution ou des textes de 1987.
Parole aux auditeurs.
Nous avons le premier auditeur qui est en ligne, Théodore Kachama. Vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Théodore.
Bonjour, monsieur le président.
Théodore, vous venez de suivre notre invité par rapport à cette thématique. Comment vous réagissez face à ce retrait de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes des matières qui ont été retenues donc sur la liste des matières à traiter à l'ouverture de la session extraordinaire qui s'est tenue à l'Assemblée nationale?
Oui, monsieur le ministre, merci beaucoup pour la parole. Je viens de suivre le débat que vous aviez eu tout à l'heure avec l'invité, qui a soulevé un certain nombre de préalables. Mais nous passons d'abord par le cadre législatif, qui est la loi organique, qui doit en principe, d'après ce que nous savons, se trouver au niveau du Parlement et qui doit être examinée. Cette loi-là, au fait, consacre l'autonomie même de la Cour de comptes. Et cette loi-là avait été élaborée par des experts, tant nationaux qu'internationaux, et cette loi-là est prête depuis 2013, et qu'elle se trouverait au niveau de l'Assemblée nationale depuis, disons, 2014. Alors, depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, cette loi-là n'a pas subi un examen au niveau de l'Assemblée nationale. Et pourtant, elle était inscrite à l'ordre du jour lors de la session parlementaire du mois d'octobre passé, comme priorité parmi les quatre lois qui devraient passer. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Et c'est ce qui fait que la Cour de compte ne fonctionne pas jusqu'à aujourd'hui. Et vous savez que la loi en vigueur, celle de 1987, est devenue pratiquement dépassée, obsolète. Et d'ailleurs, c'est cette loi-là de 1987 qui a constaté pratiquement l'existence actuelle de la Cour de compte. Mais la Cour de compte, depuis 1987, n'a jamais produit un seul arrêt. Il n'y a jamais eu un arrêt qui a été produit. Donc, elle ne fonctionne pas.
Alors, oui, donc si je comprends bien, Théodore, pour vous, au fait, ce retard qu'on connaît dans le vote de cette loi portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes présage au fait une volonté manifeste de ne pas donner au pays un mécanisme de contrôle, un mécanisme efficace de lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance.
Absolument, parce que vous savez que la Cour des comptes, c'est un instrument principal. Un des instruments principaux, disons, de la bonne gouvernance. Parce que, monsieur le journaliste, vous savez que la gestion de l'argent public sans contrôle, c'est une ruine de l'État. Même au Moyen-Âge, il existait un contrôle en ce qui concerne l'argent public. L'argent public est sacré. Et aujourd'hui, dans notre pays, nous n'avons pas d'organes qui contrôlent l'utilisation de l'argent public.
Oui, mais selon une information, Théodore, sous réserve des experts, même la plainte déposée auprès du procureur sur en matière de corruption dernièrement, qui a fait d'ailleurs la l'actu, on s'est servi de certains rapports et de certains arrêts de la Cour des comptes.
Mais qu'on dise lesquels, il n'y a pas d'arrêt de la Cour de compte. Toute la matière là qui a été que nous apprenons, parce qu'en fait la lettre, la plainte là n'a pas été mais nous apprenons par là qu'il y avait une plainte, nous lisons passer par là. Mais toute cette matière, tous ces reproches que l'on aurait fait à certaines autorités du pays, mais réponse de la Cour de compte. En principe, c'est la Cour de compte qui devrait auditer. Et vous verrez que le judiciaire aura difficile à établir les éléments, parce que le judiciaire n'est pas suffisamment outillé pour auditer sur ces matières-là. Seule la Cour de compte peut le faire.
Ah oui, on venait d'évoquer tout à l'heure quelques faiblesses également, à part le cadre juridique qui est devenu obsolète et inadapté au contexte moderne du fonctionnement. Il y a cet aspect des choses relatif au vieillissement des magistrats et à dépasser presque tout l'âge de la retraite. Et il y a eu ce concours qui a été organisé pour recruter une nouvelle génération des magistrats. Cela a été fait, c'était une bonne chose, tout le monde l'avait salué. 51 au total sont aujourd'hui stagiaires et ils ont même dépassé 2 ans comme intérimaire. Voilà. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste à faire? Semble-t-il que tous ces magistrats n'attendent que la nomination par ordonnance présidentielle des magistrats. Stagiaires, donc, recrutés et qui sont jusque-là rémunérés par les trésors publics.
Bon. Nous avons aussi appris que une cinquantaine de magistrats avaient été recrutés avec le concours de partenaires extérieurs, je crois, l'Union européenne, et que ces magistrats avait été formé là-bas, Kinshasa où vous êtes, par des formateurs qui sont venus de l'extérieur du pays. Et que la formation devrait durer une année, je crois que l'année est déjà largement dépassée. Nous sommes en train de nous poser aussi la question de savoir pourquoi ces magistrats-là ne sont pas nommés au jour d'aujourd'hui pour que la Cour fonctionne.
Voilà, merci beaucoup Théodore, à moins que vous ayez autre chose à ajouter, mais on va prendre, merci parce que là, vous avez évoqué l'aspect comme notre invité, relatif au cadre juridique qui est devenu obsolète, la question sur les faibles effectifs qui pose également problème, et vous avez aussi souligné et martelé la question relative à l'autonomie ou encore l'indépendance de cette cour qui devait en principe fonctionner dans cet état des choses, mais malheureusement, dans la configuration dans l'esprit du constituant de 1987, cette Cour fonctionne, de 2006, pardon, fonctionne sous tutelle de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Théodore. Bénédiction Bigot, vous êtes à Bukavu. Bonjour.
Oui, bonjour, JR. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Papi. Bonjour à notre invité qui nous a en tout cas éclairé par rapport à la Cour des France, qui est vraiment une matière oubliée par un bon nombre de la population congolaise. Hier, dans l'entrée de jeu, je dois d'abord dire que je dois d'abord éclaircir l'opinion en disant que cette session extraordinaire, convoquée bien évidemment par le chef de l'État, avait comme objectif principal de doter la CENI d'une loi qui va faciliter bien évidemment la CENI à matérialiser sa politique électorale. Je mets vraiment, en tout cas, je dis que la Cour des comptes, donc cette loi qui devrait élaborer des mécanismes en fait de doter la République d'une Cour des comptes vraiment efficace, n'était pas à l'ordre du jour. Bien sûr, c'était à l'ordre du jour, mais... Allô?
Oui, selon l'ODEP, ce dossier, la matière a été retirée de la liste, donc des matières qui étaient prévues pour être traitées à l'ouverture de cette session. Voilà. Donc il y a oui, beaucoup d'observateurs qui ont quand même mis quelques inquiétudes par rapport à ça.
Oui, tout à fait. J'ai vu que actuellement on a tendance à croire que le régime en place, le régime en place considère le bien de la population comme mais le bien-être de la population
aussi. Mais rapidement, Bénédicte.
Oui, tout simplement, je dois dire que cette loi qui devrait en tout cas instaurer une Cour des comptes efficace dans notre pays a été en tout cas sabotée par nos dirigeants. Mais simplement, je dois signaler que ce régime en place vous offre simplement matérialiser sa politique de se pérenniser au pouvoir, parce que simplement il voudrait que doter la CENI d'une loi qui veut que la CENI puisse.
Merci beaucoup, Migo. Bénédiction, merci beaucoup, Migo, d'avoir appelé de Bukavu. Félicien, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Félicien.
Bonjour, Gérard. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs.
Votre réaction, Félicien?
Oui, je disais que. Je ne peux pas comprendre qu'on perd beaucoup de temps à parler de la réhabilitation de la Cour des comptes. Parce que moi, je ne pense pas que la Cour des comptes, comme on l'a définie, puisse intéresser les parlements actuels. Parce que vous savez qu'en tant qu'instrument de contrôle des finances publiques, de la gestion de la chose publique, et ça ne peut pas être utile pour le moment. C'est pourquoi les parlementaires qui sont là aujourd'hui ne sont pas son intérêt. Ils n'ont pas fait des interpellations, ils n'ont pas contrôlé l'action du gouvernement pendant tout leur mandat. Et vous voulez qu'ils puissent avoir la Cour des comptes qui est indépendante et qui puisse venir déranger leur travail. Nous sommes dans un régime qui a besoin de la corruption pour le moment, des antivaleurs. Dans la Cour des comptes pourra venir, mais le moment n'est pas encore venu. Alors, quand nous allons aux vraies élections, quand nous allons arriver à la République démocratique, réellement démocratique, la Cour des comptes jouera son rôle. Aujourd'hui, vous êtes en train d'insister dans le juge parce qu'ils ne vont pas vous écouter et ils ont d'autres agendas, ils ont un autre cahier de charges. C'est de s'enrichir d'abord, les choses sérieuses pourront venir après, et donc moi je pense pas que...
Oui, Félicien, parce que là, nous avons évoqué également la question sur l'indépendance ou l'autonomie de cette Cour des comptes. Disons, le jour où elle sera effectivement opérationnelle, mais nous n'allons pas nous empêcher de réfléchir déjà en amont, pour que le jour arrivé, donc cette Cour puisse jouer pleinement son rôle. Alors, moi, maintenant, ma plus grande question, comme ça a été aussi l'inquiétude de vos prédécesseurs, aujourd'hui, on a mis cette Cour des comptes, selon les constituants de 2006, sous tutelle de l'Assemblée nationale. Ça, c'est, selon certains observateurs, c'est une erreur technique, alors ça ne pourrait pas être de la sorte. Est-ce que vous partagez cet avis?
Oui, mais si l'Assemblée nationale était en train de travailler pour combattre la corruption, c'est elle qui devrait se précipiter à avoir un organe comme celui-là. Mais au contraire, il gêne l'action de cet organe. Donc, parce que l'Assemblée nationale n'a pas d'intérêt pour le moment d'avoir un organe technique qui puisse l'aider, parce qu'il n'est pas sur la ligne de conduite de combattre la corruption, de sauver la bonne gestion de la chose publique dans ce pays. C'est pourquoi moi je dis que les jours sont maintenant comptés. Dans quelques jours, nous arriverons aux élections et nous allons avoir une assemblée qui puisse se battre pour que le pays se développe, pour que le pays puisse aller à l'émergence. Et la Cour des comptes trouvera sa place. Aujourd'hui, oui, nous pouvons réfléchir, comme vous le dites, et réfléchissons, mais je vois très mal ces gens-là donner priorité à cette question.
Merci beaucoup, Félicien. On va retrouver Mathieu qui est à Lubumbashi. Mathieu, bonjour.
Bonjour, Mathieu.
Voilà, Mathieu, vous avez suivi vos prédécesseurs. Quel est votre point de vue?
Monsieur Gér, c'est avec beaucoup d'intérêt que j'interviens dans cette émission. La Cour de compte est ce qu'on appelle une institution supérieure de contrôle dont le pays a besoin. Et à ce jour, le problème ne se pose pas en termes de renouvellement du cadre juridique. Parce que si nous entrons dans ce contexte de renouvellement de cadre juridique, le débat est parti pour longtemps. Mais le droit ayant horaire du vide, il y a besoin que le contrôle, la fonction de contrôle soit assurée dans notre État. Et dans le cadre du renforcement de la capacité, des capacités de la Cour de compte, il y a moins de 5 ans.
Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Mathieu. Je crois que la réalisation, j'ai dit César, pourrait nous aider un peu à récupérer Mathieu qui vient d'être interrompu. Hein. Voilà, donc on va revenir à vous, notre invité, pour cette deuxième demi-heure de l'émission 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Professeur Grégoire Bakandeja, vous êtes avec nous en ligne.
Oui, Charles.
Voilà, réaction par rapport à tous ces auditeurs qui ont participé dans ce débat et qui ont réfléchi ensemble, en tout cas ils ont donné l'occasion de contribuer à cette réflexion.
Alors, leur contribution est vraiment très importante. Vous voyez bien que la question des finances publiques reste toujours au cœur de l'actualité, la qualité politique et économique, et ce n'est pas un nouveau. Pourquoi? Parce que dans tous les États, on n'a jamais cessé de rechercher le moyen de financer l'action de l'État. Et on finance l'action de l'État en faisant quoi? En levant l'impôt et en organisant les dépenses. Et le rôle de la Cour des comptes, en tant qu'institution supérieure de contrôle, c'est justement pour voir, dans la mise en œuvre des autorisations budgétaires par les gestionnaires, que sont les ordonnateurs du département, est-ce que cette exécution est conforme aux autorisations qui ont été données, donc on regarde la régularité. Et si on constate que il y a des défaillances qui ont été relevées dans la gestion, alors en ce moment-là, on peut aller jusqu'aux sanctions. Je comprends que les défis actuels que nous avons le défi de la transparence dans la gestion publique, et comme nous n'avons pas, comme ailleurs, une cour de discipline budgétaire pour qu'au niveau même les contrôles internes, on puisse déférer devant les juridictions, les gestionnaires indélicats, le rôle de la Cour des comptes devient très important. On a signalé que la Cour n'a jamais rendu d'arrêt, oui. Qu'il y a des arrêts de quitus ou de délais, c'est vrai. Depuis plus de 25 ans, la Cour n'a pas joué ce rôle-là. Il faut voir dans quel contexte. Nous étions dans le contexte de la dictature, elle a été créée dans ce contexte-là. Et donc elle n'a pas été opérationnelle. Mais je signale seulement au passage que, pour montrer la volonté quand même du pouvoir actuel, dans la loi du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, on a prévu des dispositions, là, je vois, on a prévu des dispositions concernant la Cour des comptes, à l'article 123. Et on précise que il y a des textes légaux et réglementaires qui vont déterminer les modalités d'exécution des dispositions là qui concernent la Cour des comptes. Moi, j'ai participé, et je crois, je l'ai dit au début de l'émission, j'ai participé à l'audit sur les institutions de contrôle. Et tout ce qui a été fait maintenant au niveau de la Cour des comptes, on exécute les recommandations de cette mission de l'Union européenne, mission à laquelle j'ai participé. On avait dit, premièrement, il faut moderniser, donner les équipements nécessaires à ces institutions, recruter un personnel qualifié et veiller quand même à des questions principales. Les questions principales, c'est d'abord résoudre le problème de l'indépendance. En deuxième temps, régler la question de la un peu plus technique de la des rémunérations, c'est un peu plus politique là, pour rendre ces gens indépendants. Je relève simplement que dans presque tous les États, la Cour des comptes assiste les gouvernements et les parlements. Alors, la difficulté que nous avons eue en 2006, lors de l'élaboration de la Constitution, c'est que on a la Cour des comptes élevée du président de la République d'après les textes de 87, nous avons simplement dit qu'elle relève de l'Assemblée nationale. Alors, relever de l'Assemblée nationale, est-ce que c'est pour dire qu'elle est un service de l'Assemblée ou bien elle doit fonctionner comme une cour? Alors vous voyez, il y a plusieurs questions là qui ont fait que il faut d'abord redéfinir le rôle. Vous voyez tout ce que nous avons comme difficulté dans les provinces avec les recettes des provinces qui sont utilisées dans les conditions que vous connaissez par les organes provinciaux. Il n'y a pas de contrôle. Alors, est-ce qu'on va se limiter simplement à l'indépendance de la Cour? Il faut voir maintenant dans le cadre de la décentralisation. Est-ce qu'on doit la décentraliser? Nous, on avait dit l'option qu'il ne faut pas la décentraliser parce que ce sont les recettes de l'État.
Il faut
déconcentrer en envoyant dans les différentes provinces des cours régionales. Il faut contrôler même la gestion au niveau des provinces. Donc, ces questions-là, peut-être auraient justifié, à mon avis,
professeur, certains observateurs estiment que l'institution d'un conseiller spécial du chef de l'État en matière de corruption, de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance, en fait, traduit le malaise qui règne dans notre pays, où règne d'ailleurs l'impunité et la gabégie. Alors donc, pour dire que la Cour des comptes, on doit quand même accorder l'urgence à l'installation de cette cour et aussi de lui laisser la libre cours de fonctionner vraiment dans l'esprit du constituant de 2006 pour que finalement on puisse pour permettre de veiller à la bonne gouvernance du pays.
Mais je vous assure que la Cour des comptes, je l'ai dit au départ, c'est une institution clé dans un état de droit. Si dans un état de droit, on ne peut pas contrôler la régularité des opérations financières, là, en ce moment-là, ça donne accès à tous les abus. Donc, il faut à la fois une volonté politique réelle et une volonté de concrétiser l'opération parce que l'État n'est pas lié qu'à des individus qui sont là aujourd'hui. Quand on élabore des lois pour l'avenir. Pour l'avenir. Alors, s'il y a des situations présentes comme qui peuvent être réglées à partir de la loi, c'est pour quand même avoir une transparence. Il n'y a rien dans le cadre de la gestion de l'État que d'être transparent de tout ce qu'on fait. Vous voyez que la Cour réalise là, c'est à partir même des observations de la Cour des comptes. La Cour des comptes, elle va voir la comptabilité des ordonnateurs au cours d'une période donnée. C'est à partir des éléments là, comptables, qu'on peut envisager une augmentation des recettes ou une augmentation des dépenses, parce que dans le rapport que fait la Cour va dire, voilà, telle dépense a été réalisée au-delà des autorisations budgétaires. Pourquoi il y a eu dépassement? S'il y a eu dépassement, c'est qu'on a trouvé de l'argent quelque part. Donc, l'année budgétaire qui va suivre, on devra tenir compte des recettes qui sont réellement entrées. Alors, en ce moment-là, on peut augmenter les recettes, ou bien voir les diminuer, ou bien donner des conseils pour voir est-ce que cette recette-là, la dépense, elle jugera aussi de l'opportunité à la dépense. C'est à partir du moment où on va juger l'opportunité qu'on va dire non, monsieur, vous avez détourné le fonds,
ça
c'est l'efficience, dépenser moins au lieu de tout dépenser sans tenir compte de les résultats qu'on recherche. Parce qu'on sort maintenant d'une logique des moyens à une logique des résultats.
Donc,
il faut une programmation. Voilà, nous avons prévu de faire ça. Est-ce que ça a été réalisé? Pourquoi ça n'a pas été réalisé? Au lieu de rester dans la politique des moyens pour dire non, les moyens, mais si les moyens ne sont pas là, on n'a rien fait. Or, le travail de la Cour des comptes avec ses observations permet justement à l'Assemblée nationale de mieux contrôler l'action du gouvernement dans la mise en œuvre des programmes qui sont arrêtés.
Voilà.
Donc, c'est indispensable.
Oui,
on ne peut pas s'en passer.
Oui, professeur, on va rejoindre quand même deux autres auditeurs qui viennent à peine de nous rejoindre. Maurice, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour, Gérard.
Bonjour, Maurice. Et votre point de vue, Maurice?
En fait, je voulais dire ceci. Vous savez, à chaque fois, lorsque on convoque une session extraordinaire au Parlement, c'est souvent lorsqu'il y a une matière qui revêt d'un caractère urgent. Alors, dans les cas d'espèce, cette session était convoquée pour une loi portant, en fait, un projet de loi portant répartition des sièges. Et dont, le corps de cette loi a été, en fait, rejeté par l'ensemble des députés, jugeant bâclé, un travail bâclé qui a comporté des irrégularités inadmissibles et graves. Alors, aujourd'hui, comme ils ont persisté et que cette loi devrait passer de manière urgente, ils devraient maintenant les maquiller. Donc, ils devraient trouver encore d'autres raisons pour justifier cette obsession extraordinaire. Alors, c'était dans cet esprit-là qu'ils avaient, en fait, programmé d'autres lois, notamment la loi qui fait l'objet du débat aujourd'hui. Alors, cette loi-là, c'est une loi très importante. Cette proposition de loi. Parce qu'aujourd'hui, nous décrions la manière dont le budget de l'État est géré. Je l'ai toujours dit dans toutes les émissions que les ressources financières qui sont mobilisées sont en fait consommées par trois institutions de la République, à 80%. Et lorsque vous voyez les lignes de crédit qui sont allouées dans certaines institutions, et vous allez comprendre que dans les réalisations, ces institutions font des dépassements allant des hauteurs de 150 à 3%, à 300%. Alors, c'est inadmissible. Alors, une loi portant cours de compte comme
organisation
de compte, c'était une loi très importante qui devait même déjà être, en fait, adoptée et même promulguée. Mais, aujourd'hui, lorsqu'on doit retirer une loi de haute importance, les retirer de la session extraordinaire, c'était, en fait, prévisible. Parce qu'aujourd'hui, nous savons les joueurs, nous savons aussi son jeu. On ne peut pas admettre qu'il y ait des contrôles.
Oui, Maurice.
Au niveau du Parlement.
Oui, Maurice.
C'est déjà là.
Oui, c'était un problème de temps, le timing, parce qu'avec ces problèmes de démembrement des provinces, je crois qu'il y avait quand même accordé la priorité à certaines choses accorder les bénéfices d'urgence, par exemple à la Cour des comptes, raison pour laquelle l'Observatoire de la dépense publique ODEP a réagi pour dire ben voilà, si tel est le cas, il faudrait quand même qu'on accorde la priorité à cette matière-là dans la session prochaine.
Mais, vous et moi, nous savons que chaque jour qui passe, on nous parle toujours des coulages des recettes. On nous parle des détournements de biens publics. On nous parle de plus de 15 milliards qui évadent, qui échappent au trésor public chaque année. Pendant que les budgets de ces pays tournent autour de 4 milliards de dollars américains. Mais on vous dit chaque matin, non, c'est 15 milliards. Et ce sont des informations crédibles qui viennent même de ceux qui gèrent ces pays. Alors, lorsque on dit que c'est pas une loi prioritaire, moi je pense que nous ne savons pas ce que nous sommes en train de dire. Ça serait une priorité des priorités parce que ça traverse ce mécanisme. La loi portant la Cour de compte, la loi portant la rédition de compte, ça traverse ce mécanisme qu'on pourrait mettre fin à cette hémorragie financière. Mais lorsque on dit, on vous déclare que c'est pas une loi, donc dites-vous que les gens sont très à l'aise parce qu'ils ne peuvent pas couper l'arbre sur lequel ils sont assis.
Merci beaucoup, Maurice, voilà. D'avoir appelé de Kinshasa. On revient parce que Mathieu, on l'a retrouvé quand même, qu'on avait perdu tout à l'heure en ligne. Mathieu, vous êtes à nouveau en ligne.
Ah. Oui. Bonjour, monsieur.
Oui, vous parlez tout à l'heure de la Cour qui était l'instance supérieure de contrôle des finances publiques.
Ah. En introduction,
monsieur Sassoulé qui a fait le mot, c'était de faire sorte que la cour ne fonctionne pas. Entre temps, entre autres, la chance d'un cadre juridique, le déplacement de, et le nombre suffisant de magistrats, et le manque d'un bâtiment digne à une institution supérieure de contrôle. Mais vous allez remarquer qu'il y a un début de réponse a déjà commencé à être donné. La cour a été dotée d'un bâtiment, il y a recrutement sur concours d'un personnel devenu compétent aujourd'hui, parce qu'ayant subi une formation au standard international, et puis, ce personnel, ça fait 2 ans qu'il est sur le banc. Est-ce qu'en attendant que le cadre juridique soit adopté pour harmoniser, l'État, les choses publiques ayant horreur, le pouvoir public ne peut pas entrevoir la possibilité de mettre en musique cette nouvelle classe de magistrats qui doivent compléter le travail qui s'est fait par le fin magistrat qui date de 1987. Parce que vous devez le constater, la Cour produit de temps à autre des rapports et fait la rémission des comptes, mais à l'insuffisance d'un personnel qualifié, il y a ces magistrats qui ont été recrutés, qui sont rémunérés aujourd'hui par des trésors publics, mais qui tournent la pousse, et cela est inadmissible. Donc, la Cour, dans son travail, il est à cheval entre l'exécutif et l'exécutif.
Et l'exécutif, oui.
Il faudrait que l'exécutif, vous voyez, l'inspection générale du travail.
Oui, Mathieu, pour ne pas vous couper la parole, tout à l'heure, avec notre invité, nous avons évoqué l'aspect indépendance de cette Cour. Je crois qu'il y a vos prédécesseurs qui sont revenus aussi sur cet aspect des choses. Vous ne craignez pas, même si aujourd'hui on mettait en musique cette nouvelle génération, mais avec cet aspect des choses, pour certains observateurs, hein, qui redoutent que cela puisse constituer un frein pour la modernisation, peut-être l'adaptation de cette Cour à la réalité actuelle.
Parce que, vous savez, aujourd'hui on dit que la loi organique de Pontin, l'organisation fonctionnelle de la Cour des comptes a été élaguée de la session extraordinaire. Mais je crois qu'un de mes prédécesseurs a eu à le faire remarquer. Ça fait plus de 2 sessions que cette loi a été inscrite et a été élaguée pour des raisons que nous ignorons. Est-ce que le problème qui se pose aujourd'hui avec les progrès qui sont passés à 26, avec le pouvoir public au niveau central, il y a un travail, il n'y a que 20 magistrats au niveau de la Cour de comptes qui ont un certain âge à ce jour aujourd'hui. Est-ce que pour permettre à l'État, ne plus que de fonctionner, d'assumer même au minimum la fonction contrôle des déchets publics, des finances au public, il ne faudrait pas qu'il entrevoie la possibilité de mettre en musique cette magistrat. Parce que pourquoi les attend recrutés depuis 2 ou 3 ans, ils sont rémunérés par les
pouvoirs. Alors vous n'allez pas craindre, Mathieu, qu'on puisse mettre en musique des nouveaux magistrats, mais avec une équipe dirigeante qui a fait 7 ans comme intérimaire.
Bon, ça c'est aux décideurs politiques de voir pourquoi ils ont fait cet intérim. Et vous savez aujourd'hui, malheureusement, toutes les entreprises publiques où la plupart et les institutions de l'État qui sont des intérimaires qui sont là. Ça, c'est un problème qui doit être résolu sur le globe. Mais c'est un vrai problème que la Cour de comptes n'a pas un personnel qualifié et en nombre et en quantité de manière à ce qu'elle fonctionne comme une institution supérieure de contrôle.
Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir appelé de Lubumbashi. On va traverser pour le Congo central avec Michel. Michel, vous êtes à Matadi, bonjour.
Oui, bonjour, messieurs les journalistes.
Quel est votre point de vue, Michel?
Oui, mon point de vue, je aimais l'intervention de Maurice tout à l'heure. Moi, j'allais juste commenter qu'il fallait déjà que la Cour des comptes soit mise en place. Parce que nous avons déjà fait des mandats. Je crois que si nous ne l'avons pas fait lors du premier mandat, je crois au deuxième, si on avait la volonté, on aurait dû le faire. Parce qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple. Si vous allez en France, c'est un des inspecteurs. Je ne sais pas si vous me suivez.
Oui, on est avec vous, Michel.
C'est un des inspecteurs de la Cour des comptes française qui avait dévoilé pour la première fois la dépense que Valls avait engagée pour aller à Barcelone suivre les matchs. Et vous avez vu, après que la Cour des comptes a dévoilé cela, Valls s'est plié pour dire, j'ai reconnu la faute que j'ai commise, alors je répare. C'est ça un état de droit. Les mal dans ces pays, Moi, je ne comprends pas jusqu'à maintenant comment nous ne pouvons pas avoir des lois. Je vais vous dire que depuis le Congo a existé, c'est cette législative que nous avons une assemblée nationale la plus médiocre. La plus médiocre. C'est cette assemblée nationale qui nous a donné les sangs. Donc il faut rien retirer de cette assemblée nationale. Pourquoi? Parce que si elle avait la volonté, je crois, on aurait déjà avoir des lois qui pouvaient nous donner une cour pour mettre un regard sur ce qui se passe dans ce pays.
Voilà, Michel, là ça n'engage que vous, mais je crois que d'autres personnes auront peut-être une autre lecture également au regard de la production législative réalisée par l'actuelle Assemblée nationale et même la législative passée. Donc je crois qu'il y a de quoi dire que voilà, il y a un travail de soutien qui a été déjà fait et c'est vrai, ils l'ont reconnu. Oui, ils l'ont reconnu d'une manière ou d'une autre. C'est vrai, il y a un déficit du niveau du contrôle. Il y a un déficit du niveau du contrôle, mais je crois que la mise en œuvre ou la mise au pied de cette cour consulaire, ça pourrait être aussi, quelque chose comme palliatif à ces problèmes. Je crois que c'est cela le débat, Michel. Voilà, Michel, vous êtes avec nous? Voilà, on a des petits soucis également avec la ligne de Michel. On revient plutôt à vous, professeur Bakandeja. C'est vrai, il y a beaucoup d'inquiétudes. Hein. Les gens ont peur aujourd'hui. Ils estiment que ce sera pratiquement difficile qu'on arrive réellement à cette autonomie, à cette indépendance de la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes.
Il ne faut pas se précipiter à discuter de textes ou de propositions ou de projets de textes sans que les questions principales soient abordées. Je vous dis que la principale question concerne le fonctionnement. Comment va fonctionner cette cour? Deuxième question, les attributions. Hein, quelles sont les attributions qui seront reconnues à la cour? Parce que la cour, en réalité, elle existe. Le problème, c'est l'accomplissement de certaines de ses missions. Parce que bon, on avait dit au départ, comme je l'ai dit au départ, qu'il fallait d'abord moderniser avec les équipements, recruter les gens. Les gens sont là, ça fait 2 ans. Maintenant, il faut régler la question des compétences de la Cour. Il faut régler la question des magistrats qui vont opérer là-bas. Quel sera le statut? Et tout ça, on se réfère aussi à ce qui se passe ailleurs, parce qu'il y a des institutions de contrôle au niveau africain, qui se réunissent, qui font des recommandations aux États, et ces recommandations doivent normalement être intégrées dans le texte qui doit organiser la Cour des comptes. Donc, formellement, la Cour, elle est là, mais elle n'exerce pas les attributions conformément à ce qui pourrait être attendu d'un État de droit, comme le constate la Constitution en disant que cette cour existe, on dit qu'elle relève de l'Assemblée nationale, donc elle est dépendante de l'Assemblée, donc il faut régler la question de l'indépendance. Mmh. Et ça, c'est des choses qu'on ne doit pas faire dans la précipitation. Je comprends que les gens soient sévères vis-à-vis des autorités en raison des lenteurs qui sont constatées dans la programmation des voies budgétaires, mais si c'est un arrêt législatif, il faudrait que, au niveau de l'Assemblée, les commissions fassent pression pour que ce texte, qui est d'une importance capitale pour asseoir un État véritablement démocratique, que ce texte soit discuté et que ceux qui ont des arguments contraires puissent les présenter au moment de la décision budgétaire et qu'on vote. Donc, pour moi, c'est une urgence. La question n'a pas été simplement examinée avec d'attention aujourd'hui. Il faut une volonté d'aller de l'avant pour qu'on puisse avoir une cour qui permette de contrôler la régularité des opérations budgétaires, tant au niveau de la comptabilité publique qu'au niveau de la gestion du trésor. C'est un vaste programme. La cour ne contrôle pas que on contrôle aussi les questions liées à la dette de l'État. Comment ça a été géré? La Cour doit contrôler au niveau prévu aussi de contrôler la gestion de la Banque centrale, qui est le caissier de l'État. Donc, les entreprises publiques, les services publics, qui bénéficient quand même des dotations de l'État. Donc, c'est un travail immense.
Voilà, on va prendre Joséphine qui est à Boston, aux États-Unis. Joséphine, vous êtes avec nous, madame.
Bonjour, Radio Capi. Donc, je vais intervenir pour dire que, comme j'ai toujours parlé, quand une femme prend la grossesse, et la grossesse reste pendant 9 mois, et puis après, elle va avoir le bébé. Pendant les 9 mois, là, la femme ne reste pas comme ça. La femme doit aller commencer à faire la layette, préparer le berceau et tout et tout. Alors, je vais m'expliquer. Quand on parle de cour, quand on dit la cour, on voit la loi. Quand on voit la loi, on s'attend que cette loi qui sera créée doit être respectée. Or, les gens, la population ne respecte jamais la loi. Et puis quand on ne respecte pas la loi, on doit être puni. La punition, ça va dépendre. Il y aura des punitions, on t'est puni, on t'arrache quelque chose. Mais la plupart, il faut toujours arrêter. Alors quand on parle de cour, il faut qu'il y ait déjà d'abord le prison. C'est comme j'ai déjà dit dans l'émission passée, au Congo il n'y a pas de prison. Les prisons qu'il y a, c'est plein. Mais vous voulez créer la cour. Quand vous allez arrêter ces gens-là, vous allez le mettre où? D'emblée, c'est comme si vous êtes en train d'envoyer le message. Vous passez l'émission comme si le Congo, c'est bien gouverné, tout fonctionne bien. Mais il faut commencer par le commencement. Construisez d'abord les prisons là où vous allez mettre les gens que vous allez punir. Merci beaucoup,
Madame Joséphine. Pour vous, c'est vrai, il y a des cas d'impunité qui sont pratiquement liés à cet aspect des choses relatif à l'engorgement de nos prisons, de centres pénitentiaires. Et il faudrait aujourd'hui en créer d'autres pour permettre à ce que ceux qui vont tomber sous le coup de la corruption ou encore de la mauvaise gouvernance puissent aller directement dans ces prisons-là. Merci beaucoup. Madame Joséphine, d'avoir appelé de Boston aux États-Unis. Nous prenons professeur Ignace Ndala à Koulevi. Bonjour.
Bonjour, merci pour la parole. Je constate avec beaucoup d'amertume, en premier lieu, le fait que notre politique encore là tourne très mal. À mon humble avis, cet état de choses serait résolu si l'Assemblée nationale devait pleinement jouer son rôle. Parce que ici, malheureusement, l'Assemblée est constituée de ceux-là même qui aujourd'hui sont complices, permettez-moi le terme, de la situation des abus sur le plan financier. Donc, difficile que ceux qui sont impliqués dans certaines dépenses de prestige puissent encore voter ou analyser des lois qui pourraient éventuellement le ronger. Je pense que la société civile devait aussi faire pression sérieusement pour que cette loi ait été considérée pour analyse afin qu'on ait résolu le problème dont je parlais, les dépenses de prestige. Il est vraiment regrettable. Et moi, je pense, pour terminer, que la trilogie démocratie, contre gouvernance et émergence de notre pays ne pourrait jamais arriver. Ce serait un rêve sans la mise sur pied des organes pas fiables, j'insiste sur les qualificatifs fiables, de contrôle. Donc la Cour de compte devait vraiment être, la loi sur l'organisation de la Cour de compte devait être une urgence, et cela continue à demeurer une urgence, devait être mise sur la table, une priorité afin qu'on ait évité de problèmes. Donc, pour me résumer, la politique, une fois encore, a rongé ce qui pouvait donner la force pour le développement de ce pays.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Prof. Ignace Ndala, d'avoir appelé de Colosie. Nous revenons à vous, professeur Bakandeja Grégoire. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir à ces jours? C'est vrai que la loi a été proposée par deux fois, en tout cas selon les dires des uns et des autres, au niveau de l'Assemblée nationale, et cela a été retenu comme matière à traiter dans les différentes sessions, et voire même des sessions extraordinaires. Et cette matière a été retenue tiré, en tout cas pour en ce qui concerne la dernière session extraordinaire, d'aucun se plaignent, notamment l'ODEP, l'Observatoire de la dépense publique. Nous avons fait le débat aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut retenir selon vous, professeur?
Bon, je voudrais d'abord partir de deux caractéristiques qui sont communes à tous les mécanismes de contrôle. Ici, on a le contrôle externe, parce que la Cour des comptes fait partie donc des organes de contrôle externe. Alors, il y a d'abord le fait qu'il s'agit d'un contrôle qui n'est jamais a priori. C'est-à-dire que les opérations sont achevées, par exemple en matière de recettes ou de dépenses, ou en cours d'exécution. Deuxième caractéristique, et je crois que Mme Justine qui a parlé de Bosson-Sorini a parlé de la sanction. Mais ici, il faut faire une remarque fondamentale. Il s'agit de contrôle-sanction. Alors, ces sanctions peuvent être directes, notamment par l'arrêt de la Cour des comptes, un arrêt qui déclare que tel a fait l'argent, et généralement, ceux, les ordonnateurs comme les comptables, qui ont manipulé les fonds publics de manière indélicate, sont responsables à la fois personnellement et pécuniairement. Personnellement, ça veut dire qu'ils peuvent être engagés dans une procédure qui va les conduire jusqu'à la prison. Et pécuniairement, ils doivent restituer les fonds mal utilisés. Deuxièmement, cette sanction peut être indirecte.
Allô? Voilà, professeur? Voilà, on a des petits soucis avec des lignes téléphoniques. Dommage, on n'a pas pu avoir la dernière phrase ou le dernier mot de notre invité. Voilà, nous terminons par ici et nous disons merci à Jean-Claude Fiala qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Julie Feza Bongonda et Pierre Lavéji. Une émission qui vous a été coordonnée et présentée par J.R. Lungembo sous la supervision de Léonard Moulamba. On se prépare pour prendre encore rendez-vous avec vous demain dans un autre numéro de Paroles aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien. Et bon suite des programmes sur Okapi. Tout de suite, c'est donc que nous aurons droit à notre journal.